Fin de saison dramatique de la série District 31, oui. Hier soir, Marie-France.
Oui, en effet. Et puis, c'est pas tant de l'intrigue elle-même dont je veux te parler. Je vais laisser ça à Thérèse. C'est la sociologue en moi qui se demande, mais pourquoi ça marche tant? Écoute, c'est une télé rassembleuse et c'est rarissime de nos jours. Ça fait, District 31, 1,5 million de téléspectateurs tous les jours. Il y a eu des pointes à plus ou moins 2 millions. La petite vie, il y a 25 ans, c'était une autre époque et en société et en télévision, ça allait chercher 2,5, 3 millions, mais c'était une hebdomadaire. Ici, c'est une quotidienne, avec nos vies éclatées, avec plein de gens qui se sont littéralement détachés du câble, avec la vie de fou qu'on mène, ça réussit à attirer 1,5 million devant la télé à l'heure du souper, et des hommes et des femmes en nombre équivalent. Je pense à des émissions comme 19-2, une autre série policière qui attirait surtout des hommes, une émission comme Série Noire également, qui était une émission culte. Là aussi, c'est un public plus masculin. Le plus loin que je puisse remonter, une émission qui a touché nos cœurs de cette manière-là, je ne sais pas si tu regardais ça, La vie, la vie. C'était vraiment une série fabuleuse.
Oui, c'était tellement bon.
Ça nous touchait. Il y avait quelque chose de vraiment viscéral qui venait nous chercher. Donc, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce un phénomène à ce point-là? Bon, bien sûr, il y a le talent, celui de Luc Dionne, qui est un auteur prodigieux, informé, ratoureux, avec un sens du timing, les réalisateurs et réalisatrices, parce qu'ils sont deux hommes, deux femmes à réaliser ça, les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau, qui est psychologue de formation, et ça vient, je pense, nourrir la série, des comédiens époustouflants, des connus, des moins connus qu'on apprend à découvrir, et je suis sûre que la diversité qui s'insinue tranquillement dans la série, je suis pas mal convaincue que le SD qui va remplacer Isabelle, Hélène Bourgeois-Leclerc, sera issue de la diversité ethnique. On est rendu là dans la série, je pense. Mais au-delà, c'est un combat entre le bien et le mal qui est le grand thème transcendant de District 31. Puis, entre le bien et le mal, il y a 50 nuances de gris que Luc Dionne explore tous les jours. On s'attache à des pourris, comme Faneuf, par exemple. Les pas bons ne sont pas juste pas bons. Puis les bons ne sont pas sans tâche non plus. Tout ce qui touche au service secret, c'est très, très, très ambigu. Il y a tous les enjeux éthiques explorés dans cette série-là. La prostitution vue sur tous les angles, les mafias, la violence conjugale, la violence envers les aînés, le consentement sexuel, des enjeux très humains, des enjeux de pouvoir, de politique, de corruption. Et on est dans une société, tu en conviendras, Paul, qui est en perte de repères. Et cette série-là nous dit que c'est pas si facile de se faire une tête, de juger, d'arbitrer. Luc Dionne, c'est pas un moraliste. Il ne juge pas. Il y a une autre corde sensible que ça, qui très québécoise que ça vient toucher, c'est le père, le rôle du père. Évidemment, Gildor Roy, le commandant Daniel Chiasson, qui est une figure d'autorité paternelle, tellement importante au Québec, qui peu à peu devient moins nette dans la série. Avec le meurtre de Faneuf, il a basculé de l'autre côté. Il vit dans le mensonge, mais le mensonge pour le camp du bien, ce qui n'est pas une position très simple à tenir. Ça montre que l'autorité peut être très trouble, très solide, mais très fragile en même temps. Puis les lieutenants Poupou en tête, sont des figures de la contestation de l'ordre, mais au sein même de l'ordre, au sein de la police, ils sont tout le temps en train, très, très turbulents, très irrévérencieux, mais dans un corps très uni qui se tient, ils sont solidaires, et ça a quelque chose de très québécois, turbulent, mais solidaire en même temps. Je t'ai déjà parlé de l'hiver dans la série District 31, qui est une note très importante et très très identitaire. Les couleurs de cette série-là, c'est sombre, c'est gris, c'est bleu, c'est kaki, c'est vraiment pas joyeux. Mmh. Mais au fond, ce sont les couleurs de la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, elle est dure. Exactement. Et c'est l'envers de nos séries pimpantes, légères, pittoresques, très en surface. Bref, District 31, c'est vraiment une incursion dans l'âme des Québécois.
Alors, il y a quelques années, il y avait plusieurs femmes premières ministres à travers le Canada. La défaite cuisante de Rachel Notley clé. Et les néo-démocrates en Alberta, balayés par les conservateurs de Jason Kenney, nous fait que le Canada n'a plus aucune femme à la tête d'une province en ce moment.
En 2013, elle était 6 femmes premières ministres de territoire ou de province, tout genre de partis confondus, de Kathleen Wynne en Ontario jusqu'à Pauline Marois au Québec, et aucune n'aura fait plus qu'un mandat. Si tu prends la photo aujourd'hui, ça peut être une photo de 1953, ça revient exactement au même. La plus grande difficulté, c'est pas tant qu'une femme se fasse élire pour une première fois première ministre, mais bien qu'une femme le demeure ou qu'une deuxième ou une troisième le devienne. En fait, et d'ailleurs, Paul, quand on regarde tous les partis où les femmes se sont fait battre dans toutes les provinces, aucune n'est proche de redevenir chef de parti qui aspire au pouvoir. Il n'y en a aucune femme en tête de parti d'opposition, puis aucune qui s'en approche. Au Québec, Véronique Yvon, on n'est même pas certain qu'elle veuille y aller, puis le Parti québécois est très loin du pouvoir.
Mais ce n'est pas le cas pour le Parti libéral, parce que là, vous avez Dominique Anglade.
Exactement.
Et peut-être Marois Risky.
Oui, mais ce n'est pas acquis. Regarde comment la CAQ est bien en selle.
Ouais.
Donc, quand je te dis on n'est pas prêt de s'approcher, ça vaut vraiment dans toutes les provinces, ce qui fait que le Canada se retrouve en 62e place mondiale, 62e en matière de présence féminine dans les parlements. Et pourquoi? Ben, c'est pas parce que les électeurs québécois sont machos ou pas prêts, et les électrices, d'ailleurs, je devrais ajouter, les femmes ont été battues démocratiquement, mais si les partis faisaient plus de recrutement féminin, s'il y avait temporairement des quotas, ou s'il y avait un système proportionnel avec une liste, il y aurait peut-être plus de femmes premières ministres au bout du compte. En ce moment, je dois dire qu'il y a du sexisme en politique et toutes les femmes qui touchent à tous les niveaux de la politique le diront. Il y a un boys club, de la cooptation, de l'entre-soi, le système des amis. Les femmes sont jugées différemment. Elles se font reprocher très vite leurs erreurs. Elles sont beaucoup moins pardonnées, d'ailleurs, y compris par les femmes. Et s'il y en avait plus en politique et plus dans des postes de pouvoir, ça deviendrait banal. Et laisser à l'air du temps, à la nature, le soin de réaliser l'égalité de représentativité, c'est, à mon sens, de la pure irresponsabilité. Les partis doivent recruter à part égale. Ça part vraiment du recrutement. Puis cela dit, c'est pas parce que les femmes sont meilleures ou font de meilleures politiciennes ou de meilleures premières ministres. On n'est pas investi d'une aura de gentillesse, d'empathie. On ne ferait pas juste des bonnes ministres des Affaires sociales. La politique, c'est un sport rude, un sport extrême pour tous, hommes comme femmes. Alors, soumettons-les en nombre égal au feu. Elles vont s'endurcir et c'est le nombre qui va changer quelque chose. Pas notre féminité, pas nos qualités maternelles, pas notre empathie naturelle. La politique, c'est vraiment un sport de combat. Mais c'est juste pas normal qu'en 2019, non seulement qu'aucune femme soit au pouvoir, mais que dans les prochaines années, il n'y en aura aucune non plus.
Merci beaucoup. Bon long week-end.
Oui, bonne chasse aux cocos.
Et je te souhaite beaucoup. Est-ce que tu participes à une chasse de cocos?
Surtout pas à Laval.
Ah non.
Tu te rappelles le fameux cocoton.
Le cocoton de Laval.
Oui.
Écoute, c'est entré dans la légende.
Le cocoton de la honte.
Et ça a traumatisé une partie de la population.
Oui.
Alors, je te souhaite un cocoton très tranquille.
Merci. À toi aussi. Bye.